notre frère Dominique Moreau, pasteur à Valence, qui nous a prêché sur être là, au bon endroit, au bon moment. Vous vous rappelez? Bon. Et il y a 15 jours, de quoi a-t-on parlé? Ah. On a parlé du baptême. Hein, des fois les auditeurs sont oublieux. Hein. Un jour, un pasteur était dans sa voiture avec son épouse et puis leur petite fille était à l'arrière. Alors le pasteur, voyez, disait à son épouse, toi, ce qui est terrible, c'est que parfois les gens, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne se souviennent plus. Puis il a voulu faire un test. Il a dit, mais au fait, sur quoi ai-je prêché dimanche dernier? Et la petite fille derrière, papa, dimanche dernier, tu as prêché sur l'estrade. Alors vous voyez, on n'est pas sur l'estrade cet après-midi, mais on est autour de la parole de Dieu. On va lire un texte, un premier, il y en a d'autres qui suivront tout à l'heure, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On va essayer de vous rafraîchir la mémoire, et puis après d'avancer un petit peu, toujours sur cette question importante, primordiale, du baptême, du véritable baptême chrétien. Voilà. 2 Corinthiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a rédigée et qu'il a adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe, là-bas, en Grèce. Et cette lettre était inspirée de Dieu. Et voici ce que Paul dit, ou plutôt le Saint-Esprit dit au travers de Paul. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et pour lui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Alors, il y a 15 jours, on a parlé du baptême, mais nous avons essayé de répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pourquoi il faut être baptisé? Ben pour obéir à l'ordre du Seigneur et s'engager ainsi dans une vie de disciple. Également pour affirmer publiquement que nous désirons lui appartenir. Hein? Pourquoi être baptisé? Quand faut-il être baptisé? Ben à un âge, bien sûr, où on est en mesure de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire non pas un nouveau-né, mais une personne, soit adolescent, soit jeune, soit personne d'âge mûr qui fait un choix et qui l'assume. Comment il faut être baptisé en étant plongé dans l'eau, parce que c'est l'image de la mort à notre passé, c'est un peu ce que nous exprime ce verset, et d'un commencement dans une vie nouvelle. Et avant le baptême, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, il faut s'être repenti de ses péchés, avoir demandé à Dieu pardon nos péchés, il faut avoir mis notre foi en Jésus, croyant qu'il est mort sur la croix, pour que par lui, notre âme soit sauvée. Alors, à la lumière de ce texte qu'on a lu là, cet après-midi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'être chrétien, c'est avoir vécu une expérience spirituelle intérieure qui produit un bouleversement dans le bon sens, une transformation profonde, radicale dans notre vie. Il y a un changement qui s'opère. Jésus, dans l'évangile de Jean, exprime au fond la même chose, mais d'une manière un petit peu différente, avec des termes différents. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, il est question d'un personnage éminemment religieux qui s'appelait Nicodème et qui, un certain soir, est venu le rencontrer. Et voici ce que Jésus lui dit, Jean chapitre 3, verset 3. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà, Jésus parle là d'une nouvelle naissance. Voyez, un jour, nous sommes nés physiquement, en sortant du sein de notre mère, eh bien là, il s'agit d'une autre naissance, d'une nouvelle naissance, d'une renaissance, d'une naissance spirituelle, cette fois, qui s'opère en nous, donc, par le Saint-Esprit et le baptême, puisque c'est de cela dont nous parlons, représente symboliquement cette expérience spirituelle intérieure. Voilà, il faut que quelque chose se soit passé en nous. Ce n'est pas simplement une cérémonie, on est plongé dans le bain baptismal et puis les choses restent comme elles étaient jusque-là. Non, non, il y a ce bouleversement, il y a cette transformation, il y a cette renaissance. Et désormais, quand on a été baptisé, tout au moins quand on s'apprête à l'être, eh bien, il faut produire ce que Jean-Baptiste, le prophète, appelait du fruit digne de la repentance. Hein? C'est vrai que Jean-Baptiste avait un message, je le souligne souvent, particulièrement rugueux, parce que ce n'est pas de la pommade dans le dos. Hein? Et il disait à ses auditeurs, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous faites pas d'illusions, n'ayez pas de vaines prétentions, mais produisez du fruit digne de la repentance. Alors, c'est quoi ça? Produire du fruit digne de la repentance. Vous voyez, il y a des gens, ils demandent pardon de leurs péchés à toutes les réunions. Il y a un temps où, lorsque j'étais enfant, tout au moins adolescent, j'étais un petit peu dans cette démarche. Vous voyez, j'allais à l'école du dimanche, et chaque dimanche, je me convertissais. Et puis le lundi, je me déconvertissais. Et puis le dimanche après, je me reconvertissais, etc., etc. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, et la grâce de Dieu a été là, merci Seigneur, que vraiment il fallait qu'il y ait une rupture avec le péché, il fallait qu'il y ait vraiment ce changement. Hein. Ça veut dire s'abstenir du mal, rejeter le mal et pratiquer le bien. C'est ça, mes amis, porter du fruit digne de la repentance, c'est s'abstenir du mal, le rejeter, le repousser, le refuser, cesser de le pratiquer si nous l'avons pratiqué jusque-là, et désormais, avec la grâce et le secours de Dieu, bien entendu, qui veut nous aider, eh bien, pratiquer le bien. Donc, devenir une nouvelle créature, ça doit nous conduire à nous abstenir d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de comportements, d'attitudes, de pensées, de paroles, d'actes que nous avons peut-être pratiqués jusque-là, et maintenant, voilà, on est né de nouveau, on devient une nouvelle créature, on s'est repenti, on produit du fruit digne de la repentance, et on cesse ces pratiques-là. Alors, je voudrais mentionner quelques-unes. La liste est certainement fort longue, j'épuiserai pas le sujet, je ne veux pas vous épuiser à vous non plus, mais on va essayer un petit peu de voir quelques domaines dans lesquels il faut qu'il y ait ce changement de vie. Par exemple, ce qui concerne les pratiques occultes, vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ésotérisme, la parapsychologie, vous voyez, consulter les guérisseurs, participer à des séances de spiritisme, s'inquiéter de savoir quel sera notre avenir en lisant l'horoscope dans le journal. Tout cela, ce sont des pratiques que la parole de Dieu désapprouve formellement. Hein? Dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël, mais au travers du peuple d'Israël, il s'adresse à nous aussi. Et signalant ces pratiques que je viens de citer brièvement, Dieu dit ceci, « À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Pourquoi est-ce que Dieu est-il si radical dans le domaine? Pourquoi il y a cette interdiction formelle? Ben parce que Dieu nous aime, alléluia, et il veut nous prémunir, nous protéger de conséquences dramatiques, fâcheuses, que nous pourrions avoir si nous nous trompions dans ce domaine. Vous voyez, parce que lorsque nous nous tournons vers ces pratiques-là, même si nous n'en sommes pas en contact, même si nous ne sommes pas conscients, pardon, nous entrons en contact avec des puissances occultes, des démons, des esprits mauvais. Mais oui, parce que dans le monde spirituel, il y a les agents du diable qui sont à l'œuvre, n'est-ce pas, et qui s'efforcent d'entrer dans la vie des êtres humains que nous sommes pour les perturber, pour les ruiner, pour les détruire. Alors Dieu qui nous aime nous dit, mon ami, ne touche pas à ces choses-là. Comme nous nous interdisons à un gamin de jouer avec les allumettes, Eh bien, Dieu nous interdit ces pratiques-là. À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Hein? Je me souviens, il y a bien des années de cela, je n'étais pas encore dans le ministère pastoral, et dans l'église dans laquelle je trouvais, un jour, un monsieur est venu incognito. Mais Dieu nous connaît, vous savez. Il n'y a personne d'incognito pour lui. Hein? Et cet homme était guérisseur. Et ce soir-là, le thème de la prédication était celui-là. Et alors le prédicateur faisait comme ça. « À toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Et cet homme, il s'est senti découvert, vous voyez, mis à nu, bouleversé. Et il s'est converti et il a abandonné ses pratiques vaines. Alors il faut s'abstenir de ces choses-là. Bien sûr que quand on est un chrétien, on va honorer le nom du Seigneur. Hein? Et cesser, si tant est que nous l'ayons fait jusqu'à ce jour, de blasphémer son nom. C'est pourquoi parmi la liste des 10 commandements, il est dit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Tiens, puisque je vous parle des 10 commandements, les premiers commandements nous disent hein, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà, le Dieu que nous vous prêchons cet après-midi, c'est le Dieu unique. Amen. C'est le Dieu vivant et vrai. Et Dieu, bien sûr, interdit formellement que nous rendions un autre culte qu'à lui-même. Et dans notre vie, rien ni personne ne doit prendre la place de Dieu. Rien ni personne ne doit prendre la place de Dieu. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà, bien sûr que nous devons aimer notre conjoint, si nous sommes mariés, nos enfants, nos parents, nos amis, c'est légitime, c'est bien, et Dieu leur donne, mais il doit en tout cas avoir, lui, la première place. Et tout ce qui prend dans notre vie la première place, eh bien, constitue un acte d'idolâtrie que Dieu désapprouve formellement. Alors, l'idolâtrie, elle peut se porter vers les actes de piété, vous voyez, il y a des gens qui se mettent à genoux devant une statue de Marie en crucifix ou un saint quelconque, qui vont jusqu'à embrasser la statue, la représentation du saint en question, tout cela, vous voyez, ce sont des choses que Dieu désapprouve. Dieu n'a pas besoin d'une forme matérielle pour être présent. L'Écriture dit que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit. Et en vérité, c'est-à-dire non pas dans les formes extérieures de piété, mais avec notre cœur, avec notre cœur. Et puis, il n'y a pas que l'idolâtrie religieuse. Je viens de dire, tout ce qui prend la place de Dieu, c'est un acte d'idolâtrie. Alors, ça peut être l'argent. L'Écriture dit que la cupidité, l'attachement, l'intérêt immodéré pour l'argent, pour les choses matérielles, c'est une idolâtrie. Ça peut être, je ne sais pas moi, le sport, la musique, Internet, la télévision, et que sais-je encore. Il y a des gens qui ne jurent que par ci ou par ça. Moi, je me souviens de ce temps où j'étais fanat de rugby, puisque c'était ma région, et je pensais qu'à ça. Et mon objectif, c'était le dimanche, d'aller voir un match de mon équipe favorite. Ce n'est pas interdit de faire du sport, mais lorsque ces choses prennent la place de Dieu, nous sommes des idolâtres. Nous sommes des idolâtres. Et Dieu nous dit, allez, tu dégages ça. Je me souviens, quand le pasteur essayait de me faire la leçon, qu'est-ce qui m'ennuyait, ce bon pasteur. Hein? Mais moi, mon cœur était attaché à ces choses-là, jusqu'au jour où c'est Jésus qui a pris la place du rugby. Alléluia. Il est devenu mon sauveur. Alors, s'il y a dans votre vie quelque chose qui prend la place de Dieu, regardez, examinez, et dites, Seigneur, eh bien, tu vas avoir la première place. Tu vas être sur le trône de mon cœur. Tu vas être celui que je sers, que j'honore. À quoi faut-il renoncer? Au dérèglement moraux. Nous vivons, allez, je ne vous fais pas un dessin, dans une société corrompue. C'est pas vrai? On ne peut pas regarder une série télé sans qu'il y ait quelque chose, une cochonnerie, excusez-moi le terme, au milieu. Parce que l'esprit des gens est tordu, et je crois qu'il est de plus en plus tordu. Et on essaie de nous tordre, même si on ne veut pas l'être. Hein? Même si on ne veut pas l'être. Et la parole de Dieu nous montre qu'il faut renoncer à ces pratiques-là. qu'il faut vivre dans la pureté. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, il y a ce passage où le Seigneur dit ceci, chapitre 4, verset 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » L'objectif du Seigneur, c'est faire de nous des gens saints. S-A-I-N-T. Voilà. Pas des grenouilles de bénitier, mais des gens qui ont un comportement pur, digne, noble. Vous voyez, comme je le disais, je crois, à quelqu'un ce matin, des gens qui poussent comme du lys, un lys sur un tas de fumier. Le monde est corrompu, le monde est perverti, c'est comme un tas de fumier. Mais le défi qui nous est lancé à nous chrétiens, c'est de vivre dans la pureté au milieu d'un monde corrompu qui voudrait essayer de nous corrompre. Mais avec la grâce du Seigneur, jeune ou moins jeune, eh bien Dieu nous apprend et nous aide à vivre dans la pureté. Et il est écrit là, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, la fornication. C'est que chacun de vous sache posséder, c'est-à-dire maîtriser son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, le rejet de l'impureté. Il peut y avoir, il y a et il y aura certainement des occasions où on vous fera de mauvaises propositions. Eh bien, quand on veut marcher dans les voies du Seigneur, il faut trouver en lui la force de dire non. Amen. On a des exemples dans la parole de Dieu. Tenez, dans l'Ancien Testament déjà, un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui était beau. Et parce qu'il était beau, il a plu. Et figurez-vous que l'épouse de son maître, puisqu'il était esclave, Joseph, il a fait ses propositions, couche avec moi. Oh, d'autres que lui auraient cédé en disant, mais je suis jeune. Faut que jeunesse passe, faut profiter de la vie, l'occasion est trop belle, enfin on peut trouver toutes sortes d'excuses. Mais la Bible dit qu'il refusa. Elle est revenue à la charge, cette mauvaise femme, tous les jours. Mais Joseph était déterminé parce qu'il aimait Dieu, alléluia. Parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur, voyez. Et tout ça, ça fait partie de cette réalité de porter du fruit digne de la repentance. Et c'est compris dans le pactage du baptême, tout ça, vous voyez. Je choisis de vivre une vie différente. Peut-être mes amis, peut-être les membres de ma famille s'abandonnent à toutes sortes de souillures. Ils ont une vie de patachon. Mais moi, je veux me distinguer. Je veux être différent parce que je veux honorer Dieu. Alléluia. Et Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous accorde son aide, vous voyez. Pareil avec le concubinage. Hein, lorsque Jésus a rencontré cette femme, dans l'évangile de Jean, vous lirez son histoire, chapitre 4. « Va chercher ton mari, lui dit-il. Je n'ai pas de mari. Hein, Jésus connaît tout. Hein. Elle avait eu 5 maris, excusez du peu. Et le 6e avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Voilà, elle vivait une situation matrimoniale désastreuse, en opposition avec la parole de Dieu. L'Écriture dit que chacun doit honorer le mariage. Parce que ce que Dieu a institué, c'est pas tu vas avec celui-ci pendant 6 mois et puis un an avec un autre. Ou alors tu fais ta vie avec cet homme, mais tu désires pas t'engager dans les liens du mariage. Non, ce que Dieu a institué, c'est le mariage. C'est quoi le mariage? C'est l'union pour la vie d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, il faut même préciser ça. L'union pour la vie d'un homme et d'une femme. Je lui fais confiance. Elle me fait confiance. Et on s'engage dans le lien du mariage que rien ne doit pouvoir venir rompre. Vous voyez ? Alors il y a des gens, ils ont été victimes du divorce, il ne faut pas les condamner. Mais quand on est un chrétien, notre but, ce n'est pas que notre couple finisse comme ça, qu'en pensez-vous ? Hein ? C'est un mot, divorce, que les couples chrétiens ne devraient jamais prononcer. Même des fois quand on est un petit peu irrité parce que son caractère ou le mien a fait que... Non, Seigneur, on va rester ensemble. Et si problème il y a, eh bien, à tes pieds, dans la prière, on va chercher la solution. Amen. Et ça marche. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Et quand on fléchit ensemble, mari et femme, le genou devant Dieu, il nous vient en aide. Hein? Il agit dans son cœur à elle et il agit dans mon cœur à moi pour que nous puissions rester unis. Je me souviens de ce chrétien, là, c'était à Avignon, pourtant il était jeune, il s'était marié fort jeune d'ailleurs. Et puis il aimait sa femme. Figurez-vous, même après des années de mariage, il continuait à l'aimer. Et ses collègues de travail lui disaient, comment ? Ça fait 14 ans que tu es avec la même femme ? C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ce qui est tordu, eh bien, c'est d'aller voir ailleurs. C'est d'avoir d'autres idées en tête. Mais quand on est un homme digne de ce nom, ou une femme digne de ce nom, eh bien, on se dit, c'est pour la vie. Amen. Bien sûr, je le répète, hein, il y a des gens qui sont victimes du divorce. Mais quand on est un chrétien, on ne fait pas ce choix-là. On ne fait pas ce choix-là. Parce que l'Écriture dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu... Oui, vous le savez. Mais non seulement il faut le savoir, mais il faut le pratiquer. Qu'est-ce qu'il y a encore auquel on doit renoncer ? La fraude. La tricherie. Dans le domaine des affaires, des impôts, du travail, des dettes. Mais oui, ça va jusque-là. Vous savez, pendant un an, j'ai travaillé chez un expert comptable. Et alors, quand c'était la période des déclarations d'impôts, il y avait des messieurs dames qui avaient les moyens et puis qui venaient essayer de voir si on ne pouvait pas trafiquer un peu leurs déclarations pour que... Hein, il y a deux comptables dans la salle, alors elles savent de quoi je parle. Hein? Mais oui, mais ça, c'est le monde, ça. Ça, c'est le monde, mais un chrétien... L'Écriture dit que ça fait partie de notre vocation chrétienne, même de payer des impôts. Non, si, c'est écrit. Et il est même dit que le percepteur, même s'il ne le sait pas, il est un serviteur de Dieu. Vous vous rendez compte? Et qu'à ce titre, nous devons être soumis. Les petits trafics, les petites magouilles pour gagner 4 sous ici et 2 ailleurs, ça ne marche pas. Nous, nous voulons conserver, chrétiens que nous sommes, notre conscience pure. Hein? Il vaut mieux avoir 3 sous de moins dans le portefeuille et une conscience claire que l'inverse. 4 sous en plus et une conscience souillée. Mais c'est écrit, tenez, hein? Là je le lis, que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Tu vends ta voiture d'occasion, elle a fait 2 fois le tour du compteur. Et si tu dis qu'elle n'en a fait qu'un, tu trompes l'autre. Tu es un pécheur et tu déshonores Dieu. Vous voyez ? La vie chrétienne, c'est pas une vie en tranches. C'est pas une vie en sandwich. C'est pas, voilà, il y a la réunion le dimanche et puis après, il y a la vie tout court. Ah, alors, dans la vie, eh ben, on se tire d'affaires comme... Non, c'est un tout. Tu es chrétien à l'église, tu es chrétien au boulot, t'es chrétien dans la famille, t'es chrétien quand tu paies les impôts, t'es chrétien dans les affaires, t'es chrétien partout. Hein? Un jour, une jeune fille a acheté un stylo, un beau stylo, pour son père. Et la vendeuse, je ne sais pas comment elle s'est tirée d'affaires, la pauvre fille, il y avait 4 affaires des bricoles en plus, vous voyez, elle a oublié d'encaisser le stylo. Mais c'était une chrétienne, elle a dit, oh, elle s'est trompée. Alors elle est revenue. Elle dit, vous avez oublié de me compter ça. Oh, merci, merci, merci. C'est tellement rare que les gens soient honnêtes. Hein? Elle a raconté ça au travail. Les collègues lui ont dit, oh, si ça avait été moi, je serais parti en empochant le stylo et puis comme ça. Mais elle dit, non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, vous voyez. Quand on est un chrétien, pas de 4 sous ou de pacotille, mais un vrai chrétien. Il y a quelque chose là dans notre cœur. Il nous dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Mes parents tenaient un commerce quand ils se sont convertis. Et à l'époque, il n'y avait pas les dates de péremption sur les yaourts et les bouteilles de lait. Alors avant qu'ils ne connaissent le Seigneur, le yaourt, il était toujours frais. Vous comprenez? Mais ma mère me disait, et ce n'était pas une rêveuse, vous savez, ma maman, hein, mais quand on a commencé à venir écouter l'Évangile, et qu'on trichait, qu'on magouillait, mais une voix intérieure me disait, c'était tellement fort que des fois je me retournais. Tu triches. tu voles. Et alors, ça a été fini, vous voyez. C'est ça, se convertir. C'est ça, devenir chrétien. C'est pas planer, hein. C'est être au clair, c'est être honnête sur les choses les plus ordinaires de la vie, mais qui honorent Dieu. Et c'est cela, devenir une nouvelle créature, marcher en nouveauté de vie. Et c'est à ça, à ce genre de vie, à ce style de vie qu'on s'engage quand on prend le baptême. Quand on prend le baptême, que dire encore? La haine, ah, je ne peux pas le voir, parce que c'est un arabe. Ou un juif, ou un noir, ou un blanc, ou un jaune. Qu'est-ce que c'est ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La haine dans le cœur. Le ressentiment, il m'a fait ci. Eh bien, il va voir. Il va voir de quel bois je me chauffe. Ah, il ne perd rien pour attendre, celui-là. Hein? Mais le Seigneur, il a d'autres plans, d'autres projets pour nous. Dans l'évangile de Matthieu, il n'y a que dans l'évangile qu'on trouve ça. Il n'y a que dans l'Évangile qu'on trouve de tels principes. Vous voyez, hein? Il est écrit au chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La Bible disait, la Bible dit toujours, tu aimeras ton prochain. Mais les religieux de ce temps-là, ils avaient ajouté, tu haïras ton ennemi. Ça, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Alors Jésus dit, mais moi je vous dis, vous voyez, de par son autorité divine, parce qu'il est le Fils de Dieu. Moi, je vous dis, ce n'est pas un ecclésiastique qui raconte, ce n'est pas un curé, un prêtre, un pasteur, un imam, un rabbin, non, c'est Jésus qui dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand on devient un chrétien, on reçoit une nouvelle identité. Nous avions pour père qui? Qui c'est que nous avions pour père? Le diable. Et quand on devient un chrétien, on devient fils de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, l'évangile de Jean, on l'a lu ce matin, chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant, il se comporte comme son père, tel père, tel fils. Eh bien, Dieu, il aime même ceux qu'il n'aime pas, figurez-vous. Et il nous apprend à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Il nous apprend la grâce, parce que c'est une grâce, de pouvoir pardonner. Alléluia. Vous savez, le pardon, pas qu'on reçoit seulement, mais qu'on accorde aux autres, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ce n'est pas une lâcheté, c'est une preuve de force. C'est parce que Dieu est fort, mes amis, qu'il pardonne, qu'il peut se permettre de pardonner. Et comme on est bien, quand on vit sans rancune, n'est pas vrai? Quand on peut dire à quelqu'un, le mal que tu m'as fait, je le pardonne, je te le pardonne. Et si je peux en retour te faire du bien, je t'en ferai. C'est ça l'engagement du baptême. Oh, ça dépasse mes capacités, c'est vrai. Mais les capacités que nous n'avons pas, Dieu nous les donne. Alléluia. Je mentionne souvent le témoignage de cet homme à Bayonne. C'était un déménageur. Il avait des épaules, mon ami. Il était impressionnant. Mais il avait un cœur rempli de haine. Vous voyez, fort physiquement, mais finalement faible moralement. Quelqu'un lui avait fait un sale coup, alors il échafaudait des plans dans sa tête pour le supprimer. Et le Seigneur est passé par là. Un jour, en entendant un témoignage, tiens, je crois que c'était le témoignage de Nicky Cruz, d'ailleurs, là, sur une cassette, à l'époque, c'était les cassettes, la grâce de Dieu est intervenue. Il disait, je sentais que ce qui avait de mauvais sortait de moi, quelque chose de bon me pénétrait. Et le jour de son baptême, il a pu dire, Dieu m'a guéri de quoi? De ma haine. Quel miracle! Quand Dieu nous guérit de notre haine, c'est ça. Porter du fruit digne de la repentance. Et puis la médisance, le langage ordurier. C'est écrit, hein? Les plaisanteries, pas les plaisanteries gentillettes, mais les plaisanteries grivoises. Vous savez, avant de me convertir, j'étais d'une grossièreté. Je ne pouvais pas dire trois mots sans qu'au milieu, il y ait quelque chose qui n'était pas clair. Et c'était plus fort que moi. ça sortait comme de l'eau du robinet. Mais quand le Seigneur est passé par là, ça a changé. L'Écriture dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi mon langage était-il ordurier ? Parce que mon cœur était souillé. Mais quand Dieu a eu purifié la source, alléluia, le langage a pu changer. Je ne me souviens pas d'avoir fait un effort désespéré, mais je peux dire qu'en quelques jours, en moins d'une semaine, je crois, mon langage a changé. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. C'est porter du fruit digne de la repentance. Les excès de table et de boisson. C'est écrit ça aussi, Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair. Les excès de table et de boisson. Et puis toute forme d'addiction. Tout ce qui détruit notre santé. Le tabac. Je ne comprends pas moi. Hein. Tant pis si je ne fais pas de but, il y a un bureau de tabac à côté. Et de temps en temps, je vais, pas pour acheter des cigarettes, mais pour acheter des timbres. Et je vois sur chaque paquet de tabac, le tabac tue. Le tabac tue. Et les gens achètent ce paquet et il est écrit « le tabac tue ». Mais il me semble que ça me persuaderait d'arrêter. Vous voyez, on est pris dans l'engrenage. C'est plus fort que moi. Je voudrais m'arrêter. J'ai eu tort de commencer. Et maintenant, je suis ficelé. Je suis attaché. Je suis lié. Je suis... esclave. Si quelqu'un était esclave d'une addiction, quelle qu'elle soit, mes amis, ça peut être l'alcool, la drogue, le tabac, la pornographie, que sais-je encore. Le Seigneur veut vous rendre libre. Alléluia. Si le péché nous rend esclaves, le Fils de Dieu nous a franchis. Et si vous lui apportez votre vie en disant, Seigneur, je veux en sortir, délivre-moi, transforme-moi, change-moi. Il va le faire. Gloire à Dieu. Il vous rendra capable de faire ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Vous savez, l'Écriture dit même qu'il faut avoir dans notre tenue l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est écrit. La Bible, elle parle de décence. Elle parle de pudeur. Et les chrétiens ou les chrétiennes, eh bien, doivent veiller quant à leur tenue vestimentaire à ne pas avoir de tenue provocante, aguichante, qui suscite chez l'autre, chez les autres, des pensées impures, des pensées de mauvais désirs. Ouais. Il ne s'agit pas de s'habiller comme une grand-mère du 19e siècle, mais quelqu'un qui marche et qui vit dans la pureté. Alors on pourrait encore dire beaucoup de choses, on s'arrêtera là, n'est-ce pas ? Renoncez au mal. Si vous faites ce choix du baptême, c'est là le style de vie, je le répète, dans lequel vous devez... vous engagez. Mais Seigneur, j'y arriverai pas. Si, vous y arriverez. Parce que ceux qui vous ont précédé sur le chemin n'étaient pas meilleurs que vous, peut-être pire. Mais lorsqu'ils ont ouvert leur cœur en disant, Seigneur, viens, sauve-moi, pardonne-moi, change-moi, il l'a fait, alléluia. Et il le fera aussi pour vous. Et non seulement c'est renoncer au mal, devenir une nouvelle créature, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est apprendre à pratiquer le bien. Je le disais ce matin, Dieu nous prend comme on est, ok ? Il a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi, hélas, nous sommes capables. Même le pire, nous sommes capables. Mais il nous prend comme nous sommes. Et si nous venons à lui tel que nous sommes, en lui disant, Seigneur, je voudrais que ça change, alors il fait toutes choses nouvelles. Pour lui, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous devenons chrétiens, un vrai chrétien, qu'est-ce qui se passe ? Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Où est-ce que Dieu habite aujourd'hui ? Une cathédrale ? Un temple ? Non, pas du tout. Même pas une salle évangélique. Là où il veut habiter, c'est en nous. L'Écriture dit que notre corps tout entier devient le temple du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est saint, il nous rend capable de mener une vie sainte. Et non seulement il agit en nous pour nous libérer, nous débarrasser, nous purifier du mal, mais il produit en nous des œuvres nouvelles. Écoutez ça. Le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la conséquence, le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Je ne suis pas comme ça, vous non plus. Mais ce que nous ne sommes pas, Dieu, par son esprit, est désireux de nous le donner. Amen. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faut s'engager. Vous voyez, il y a tout ça dans le baptême. Hein? Rappelez-vous ce verset, on va terminer par là. Celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui a établi une relation, une communion, une communication avec la personne de Jésus. Voilà, maintenant, le Seigneur a pris place dans sa vie. Alléluia. Il s'est repenti, il a demandé pardon, il a accepté comme sauveur et maître. Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et pour lui, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est ce que Dieu veut vous donner de vivre par sa grâce. On prie le Seigneur quelques instants.